Depuis plusieurs mois, je tiens une newsletter où je partage mes réflexions, mes inspirations, des tips pour vous connecter à vos corps, les informations concernant les événements ou cercles de parole que j'organise, ainsi que plein d'autres surprises. Alors n'hésitez pas à vous inscrire en me laissant votre mail sur l'Instagram de Shapes. Après l'interview que vous allez entendre, j'ai été prise d'une grande émotion. Mon corps a tremblé, mon cœur s'est mis à battre très très fort et les larmes ont coulé, me permettant enfin de respirer. Oui, c'est ça, j'ai respiré. J'ai ressenti beaucoup d'amour d'un coup, beaucoup d'amour pour l'autre, l'autre étant l'homme. Un moment aussi confus que clair qui permet à mon corps de se relaxer, offrant à mon esprit de l'espoir ainsi qu'un sentiment de gratitude énorme pour notre génération. Une génération courageuse qui se questionne, qui se remet en cause, qui apprend à communiquer. Une génération ouverte sur l'autre, tout ça au nom de l'amour. Théodore Faméry est un humain passionné qui casse les codes sans en avoir l'air et chamboule notre rapport au corps et à notre sexualité. Il invite par sa douceur à changer de regard, à s'ouvrir à l'autre pour mieux se comprendre et s'accepter. En 2015, avec deux amis, il crée en toute légèreté et sans attente Carne Bolente, une marque de vêtements streetwear sur lesquels s'inscrivent des illustrations à caractère sexuel. Une belle manière de replacer le sexe dans l'espace public, en nous offrant aussi matière à questionner nos rapports à notre sexualité. Avec Théodore, on a parlé de son rapport au corps, de désexualisation des corps, de sexe et d'amour en toute vulnérabilité. Salut Théodore.
Salut.
Merci d'être là aujourd'hui, ça me fait plaisir de te recevoir. Comment tu te sens ?
Bien, malgré toutes les situations actuelles, mais ça va. On reste aligné.
Super. J'aimerais savoir quel rapport tu entretiens à ton corps.
C'est vaste.
Ouais, je sais. Comme ça, on rentre direct dans le sujet, tu vois.
Écoute, ça m'a interrogé quand tu m'as posé ces premières questions, mais je me suis rendu compte que assez naturellement, depuis l'enfance, j'avais un rapport assez instinctif et naturel à mon corps, qui a été évidemment un petit peu bousculé et re-questionné quand j'étais adolescent. Je pense comme beaucoup de gens, on se conscientise et on regarde qui on est et on essaie de comprendre qui on est. Mais assez simple, finalement, je crois. Un rapport assez simple et assez, assez instinctif, mais je crois que j'ai été éduqué beaucoup dans les ressentis et l'instinct, donc je crois que j'ai pas vraiment d'autre manière d'approcher les choses en général que de voir comment je me sens et comment ça se passe.
Est-ce que on va dire les changements à l'âge de l'adolescence dans ton corps ont engagé en fait des perturbations dans ta manière de le voir ou dans la représentation que tu pouvais en avoir à ce moment-là?
Je crois qu'il y a quelque chose qui a changé, c'est l'âge où j'ai compris que je pouvais plaire, ouais. Et où les relations amoureuses commencent ou naissent. Et oui, ça interroge de se demander, est-ce qu'on plaît, est-ce que je suis beau, est-ce que à qui je plais, pourquoi, comment. Ouais, c'est troublant. Surtout que je suis dans une famille où j'ai trois sœurs. J'ai été élevé par ma mère, entouré de femmes, et je crois que ma construction générale s'est faite par rapport à des femmes, globalement. Et du coup, d'un coup, d'être dans quelque chose qui n'est plus ni fraternel ni maternel, mais relationnel, amoureux, etc., ça a été un changement. J'ai dû recomprendre ce qui se passait, quoi.
T'es le plus jeune, le plus vieux?
Non, je suis au milieu. J'ai une grande sœur et deux petites.
Ok.
Mais ouais, quand j'étais petit, moi, j'étais plus déguisé en robe qu'en Robin des Bois, quoi. J'adorais ça et je comprenais... J'avais l'impression que c'était comme ça partout.
Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es vraiment regardé dans un miroir?
J'évite les miroirs. Okay. J'aime pas trop ça.
Ok.
Je suis pas... Ça va mieux. Ouais. Ça va beaucoup mieux. Mais je me rappelle d'une période à l'adolescence où j'en ai pris conscience récemment, où je ne me regardais quasiment pas. Et où je m'évitais un peu, quoi. Je pense que je dirais pas que je ne m'aimais pas, parce que c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, j'avais un rapport à mon image qui était pas très simple, pas libéré, pas serein. Je suis un ancien timide. Enfin, on reste timide, mais je crois que j'ai un peu lutté contre les expressions de la timidité pour moi. Je pense que ça a un lien à ça, de montrer qui on est, Ouais, je sais pas bien le dire en fait, je me rends compte. Mais je me suis rendu compte que pendant un moment, j'évitais mon image, ouais. Je le coupe en partie. C'est pas une globalité. Je fais beaucoup d'escalade. Donc il y a un rapport au corps. C'est le seul outil pour faire de l'escalade, c'est ton corps. Et c'est vrai que c'est beaucoup par partie. Je sais que je vais. Bon, il y a ce qu'on voit, donc on voit ses mains, on voit ses bras, on voit ses pieds. Les parties en général du buste et du tronc sont des choses qu'on voit moins, sauf si on se regarde beaucoup. Mais ouais, c'est vrai que psychologiquement, mentalement, je sépare. C'est pas une globalité, c'est pas un tout, c'est des parties.
Est-ce que c'est des questions du fait que tu as été élevée, que tu as trois sœurs, c'est ça?
Ouais, trois sœurs.
Est-ce que justement à l'adolescence, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues différentes chez toi que chez tes sœurs, ou est-ce que tu as la sensation que ce moment-là, vous l'avez vécu de la même manière?
Je crois que je l'ai. Bon, évidemment, je pense pas l'avoir vécu de la même manière parce que simplement je suis un homme et que la société malheureusement permet pas les mêmes choses et ne fait pas vivre les mêmes choses. Mais je crois, en tout cas intérieurement et intimement, avoir vécu des choses similaires. Et très simplement, je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai toujours été entouré, mais 90% de mes amis sont des femmes. Je crois être instinctivement, être resté, avoir créé ma vie un peu dans ce même mode que dans lequel j'ai grandi. Mais c'est sûr que mon rapport à mon corps, je pense, n'est pas le même que celui que mes sœurs ont pu avoir. Au moment de la puberté, simplement, ou des choses comme ça. Mais j'ai été témoin de ce qu'elle vivait aussi, et pas trop de tabou dans ma famille par rapport à ça. Du coup, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai pu le ressentir. Assez naturellement, je crois, quand je me suis retrouvé dans des groupes de mecs, j'ai des amis mecs, hein, mais depuis plus récemment, et des personnes avec qui on peut parler un peu en profondeur. Mais je crois, quand je me suis retrouvé dans des groupes de mecs à l'adolescence, j'étais, je dirais pas inadapté, mais en tout cas, je m'y retrouvais pas, quoi. Et on pouvait pas parler des choses en profondeur, parler d'émotions, de sentiments, c'est tout de suite risible. Je sais pas, j'ai toujours eu besoin d'une forme de proximité dans la profondeur de ce qu'on aborde, dans les choses. Et en tout cas, à ces âges-là, avec les gens à qui j'étais entouré, c'était plus facile, par un entourage féminin que masculin. Je veux dire un truc qui est peut-être pas politiquement correct, mais j'ai aussi très tôt eu beaucoup d'amis homosexuels avec qui il y avait cette même proximité, cette même possibilité, ou en tout cas cette capacité d'introspection, qui, je pense, pour une personne homosexuelle à l'adolescence, en fait, il y a eu de l'introspection plus tôt, je pense, dans la plupart des cas. Mais après, comme je le dis maintenant, j'ai retrouvé des amitiés masculines où il y a cette possibilité de parler en profondeur, mais ça a été plus compliqué à trouver, ayant j'en ai moins. Mais il y en a.
Il y en a,
Mais
ça
ça arrivait plus tard,
ouais.
parce que les réalisations sont peut-être arrivées plus tard aussi. Et je sais pas. Ou alors il y a une forme de défiance de ma part, j'en sais rien. J'ai senti la défiance de mes sœurs. J'ai reproduit.
Du coup, est-ce qu'il y a eu des comparaisons ou des complexes de ton corps par rapport à d'autres corps d'hommes?
Je sais pas si je me suis beaucoup comparé. Je crois que j'ai jamais eu un fantasme de l'homme musclé haltérophile. Ça, je l'ai pas eu. C'est plutôt un truc de charisme. Je crois que j'ai pu être envieux de certains charismes ou du fait d'être à l'aise complètement. Mais ça, j'ai eu une sorte de déclic à l'adolescence. Je sais pas ce qui s'est passé. Où je me suis mis à danser en soirée. Beaucoup. Parce que je dansais avec mes sœurs quand j'étais petit. C'est un truc que j'ai perdu ensuite parce qu'en fait, quand tu vas dans une soirée et que t'es ado, les mecs dansent pas. La plupart du temps.
Non.
Et il y a un moment où en fait, j'avais envie, mais j'osais pas. Parce que je pense, j'avais peur d'être jugé par les autres mecs ou de ne pas être comme les autres mecs. Et à un moment, je me suis dit, merde, non, mais c'est trop con, j'adore danser. Je me suis remis à danser, et ça a été une forme de réappropriation assez forte. Où, moi, ça me faisait du bien, en fait, d'avoir cette liberté-là quand je voyais que beaucoup ne l'avaient pas. Mais du coup, j'ai pu avoir, je pense, à l'adolescence, de me dire, putain, ce mec danse, moi, je danse pas, ça fait chier. Mais par contre, pas envieux sur le corps pur et dur, le physique, la morphologie, non, je crois pas.
Danser, bouger ton corps, c'était une manière pour toi de prendre ta place?
Ouais, je pense. Je pense. Et puis c'est juste libérateur, quoi. Je pense que c'est très utile, la danse. Moi, ouais, c'était un plaisir, en fait. J'ai toujours vu ça comme un plaisir dans ma famille, et ça l'est redevenu.
Est-ce que tu penses que tu as toujours été à son écoute ou alors que tu as appris?
J'ai appris. Après, je me rends compte que j'ai toujours eu une espèce de passion pour les bains et le bien-être. Donc, je pense qu'inconsciemment, mon corps appelait tout le temps des choses qui lui faisaient du bien et je l'ai toujours respecté. Par contre, la conscience de encore plus de bien-être, encore plus de bien pour moi, bon, ça fait déjà quelques années, mais ça a été plus autour de la vingtaine, 20, 25 ans. Ma mère m'a beaucoup transmis ça, de créer une atmosphère agréable, s'écouter, dormir, manger bien. J'ai compris il y a quelques temps que quand on a un coup de mou, si on se fait du bien au corps en général, ça va faire du bien au reste. Et ouais, ça c'est un outil. Je crois qu'on conscientise que c'est le vaisseau, le corps, et que sans ça, il se passe pas grand-chose. S'il va pas bien, il se passe pas grand-chose, et que le mental va pas suivre. L'un alimente l'autre, mais je pense que le corps, c'est la base de beaucoup de choses pour se sentir bien. Du coup, oui, j'ai toujours ce réflexe. Si j'ai un coup de mou, ça va être, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Comment D'abord, je m'occupe de mon corps, ensuite on verra le mental. J'ai pas de problème avec la nudité. Je vais évidemment être gêné de ma nudité si quelqu'un est gêné de ma nudité. Parce que je sens tout, en général, des gens qui sont en face de moi, et je suis très sensible, donc je vais souvent me retrouver dans l'état de la personne en face. Mais à part ça, non, la nudité, c'est assez libre. Je me sens bien, je préfère d'ailleurs. Je suis fan de bain, donc si t'es en maillot dans un bain, c'est
C'est très chiant.
chiant en fait. Carne bollente, c'est une vaste blague à l'origine. C'était en 2014. J'étais dans une école d'art à l'époque avec plusieurs copains, artistes, illustrateurs, designers et compagnie. Et la mode était particulièrement chiante à l'époque. C'était le normcore à son plus grand moment, donc pas de couleurs, pas de motifs. Pas d'œuvres d'art sur des vêtements ou quoi que ce soit, assez simple, assez uniforme. Et avec quelques copains, on s'est mis à se faire broder nos vêtements par un brodeur d'un petit quartier. On rajoutait des choses. Et un jour, je sais vraiment plus comment ça s'est passé, ça a dû partir d'une blague. J'ai demandé à un ami illustrateur qui s'appelle Agoston, qui est toujours dans le projet aujourd'hui, qui est mon associé, je lui ai dit, mais ce serait marrant de faire des scènes de cul sur nos t-shirts. C'est pas allé beaucoup plus loin que ça. On n'a pas beaucoup plus réfléchi que ça, mais on s'est fait ça, on les a portés, et ça a créé un phénomène boule de neige où notre cercle d'amis proches en a voulu, puis le cercle d'amis un peu plus éloigné, etc., etc. Et c'est devenu, on a pris conscience au bout de quelques mois que ça pourrait devenir un peu plus. On nous l'a dit surtout, parce qu'on était un peu trop bêtes pour se rendre compte. Et donc, Carne Bollente, maintenant, est une marque de prêt-à-porter. Unisexe. Sur chaque pièce, il y a un dessin, une illustration, une photo en rapport avec la sexualité ou l'érotisme, et qui, ça c'est ce qu'on souhaiterait, permettre à chacun d'afficher ce qu'il a envie et de rendre la sexualité une certaine place publique et visible, parce que on considère qu'on est quand même une société qui cache le sexe beaucoup, qui cache le corps, qui cache la sexualité. Sous tous ces aspects. Hein, les films érotiques sont le soir tard, les sex shops sont derrière des rideaux masqués, les sextoys sont dans des placards. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des époques où il y avait des organes sexuels sur les temples dans la rue. Et donc on pense que c'est peut-être un petit peu plus sain de montrer ces choses-là. Je pense que la sexualité seule, c'est une manière d'explorer son corps, ses fantasmes, ses désirs, ses idées, ses perversions, etc. Et à plusieurs, c'est la même chose, mais avec aussi la découverte de quelqu'un ou quelques-uns en face, quelques-uns, quelques-unes. C'est de l'exploration pour moi, je crois. Ça a toujours été quelque chose où j'ai jamais eu l'impression d'avoir atteint la finalité ou la fin de ce que ça peut être, qu'il y a toujours autre chose, qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre avec qui c'est différent, ou une découverte que tu fais sur toi-même, ou une idée qui va te turn on. Et ouais, ça a toujours été, je crois, il y a un lien avec Carnet, c'est que j'ai découvert il y a quelque temps que ça faisait très sens pour moi de faire ce projet, d'avoir un projet qui est sur l'exploration en relation avec la sexualité. Mais je m'en étais pas rendu compte, mais je pense que j'ai ça en moi depuis très longtemps, ça m'intrigue en fait. Je suis très curieux de ce qu'est la sexualité, de toutes les formes de sexualité qu'il y a. C'est assez génial qu'on ait ça dans nos vies. Mais on ne nous l'a pas beaucoup dit.
Du coup, pour toi, ça a toujours été hyper simple, même quand tu l'as découvert plus jeune.
Jeune, comme le reste, ça a été assez instinctif. Ensuite, il y a eu des questions et des questionnements. Je crois que ça a été simple pendant longtemps. Je crois que dernièrement, tous les sujets qui se sont ouverts en rapport au féminisme, au genre, etc., m'ont fait m'interroger un petit peu plus. Parce que c'est ce que ça doit créer, je pense. Mais ouais, c'est plus assez récemment où il y a une forme, une petite complexité qui a pu s'installer dans mon rapport à la sexualité, ouais. De me dire un peu plus profondément qu'est-ce que je fais à l'autre, qu'est-ce que veut l'autre, qu'est-ce que moi je veux, de quoi j'ai envie, surtout, profondément, et que ça vienne de moi. Mais oui, jusque-là, j'avais la sensation que c'était simple.
Simple parce que tu te posais pas de questions, parce que c'était instinctif.
Probablement, mais en se posant pas de questions, on fait pas forcément ce qui est le mieux pour soi ou pour les autres.
Tout ceci a été très instinctif et en
Ouais.
fait, d'un seul coup, tu te dis, mais en fait, j'ai jamais posé aucune question à l'autre, je me suis jamais posé aucune question à moi-même.
Ouais.
Et comment ça se passe si d'un seul coup on se met à se poser des questions à cet endroit-là? Est-ce que ça devient encore plus libérateur que ça ne l'est?
C'est thérapeutique, je pense. Donc c'est, tu ouvres des portes, tu dois, c'est mon avis, mais les questions te font t'interroger. Je pense que c'est pour revenir à plus de simplicité, mais c'est une phase complexe, plus complexe en tout cas. Est-ce qu'on ne dit pas ça parce qu'on a juste 30 ans et que c'est le moment où on se pose ces questions? Je ne sais pas.
Non, je pense
Mais.
qu'il y en a qui vont jusqu'au bout sans se poser réellement de questions.
Ouais,
Je
c'est
pense que
vrai.
c'est aussi
La
un peu l'époque.
conscience.
Je pense que c'est aussi un peu l'époque qui veut ça, parce qu'on est aussi en train de comprendre. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais que la sexualité n'est pas quelque chose à part du corps. Elle en fait partie
Ouais.
de manière intégrante, et que si cette partie-là, elle n'est pas, on va dire, embrassée, le corps ne fonctionne pas correctement. Et
Complètement.
l'esprit non plus.
Complètement.
Donc, on ne peut pas séparer la sexualité du bien-être, du corps, psychique et physique.
Ça fait partie de la possibilité d'épanouissement qu'on peut avoir dans nos vies, je pense. Mais c'est si peu dit, on nous éduque vraiment pas en nous disant ces choses-là, que ça nécessite une reconquête un petit peu et une conscientisation de l'importance que ça peut avoir, je pense. Je dis pas que ça doit être important pour tout le monde, j'imagine que c'est pas la même place pour tout le monde.
Oui, mais peut-être d'en laisser une, tu vois, de se
Ouais.
dire que qu'il y a une vraie place à ça et qui doit pas faire rougir ou te faire sentir coupable, parce que je pense que c'est aussi beaucoup ça, parce que
Ouais.
la sexualité, vu qu'elle est mise à part de ton corps et qu'elle est liée à notre éducation, ou très tournée vers les religions monothéistes où la sexualité est mise à mal. Culpabilisante, frustrante, et tout ce qu'on peut y rajouter d'autre, que du coup, elle doit pas faire partie de nous. Et là, on essaie, je pense, effectivement, par toutes ces questions de genre, d'amour, de préférence, ou en tout cas de mettre la sexualité au centre, en disant non, c'est quelque chose qui doit être important dans nos vies et qui doit pas être gênante
Ouais.
et procurer une différence entre les gens de comment tu traites les gens. et qu'elle est symbolique de, du pouvoir de chacun. Moi, c'est un peu ce que je découvre là, aujourd'hui. Qu'en fait, elle fait partie de ton pouvoir en tant qu'être humain, humain et humaine, et qu'elle n'est pas liée à quelque chose de dégradant.
Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est, bah, c'est ça, on a en fait... C'est ce que tu racontes, notre éducation et la culture qui nous a entourés nous a un peu mis dans l'idée que c'était honteux et dégradant, un petit peu, malgré tout ce qu'on dit. Et là, c'est plus réaccepter ça dans sa vie, comme manger, dormir, boire, comprendre ce qu'on aime, ce qu'on veut, etc. Mais ça peut être... Il faut que ça redevienne très simple, je pense. Enfin, il faut. Ça pourrait redevenir très simple, je pense.
Ouais, on espère, en tout cas. Enfin, moi, j'espère que ça devienne...
Je me le souhaite, je pense que ça enlève beaucoup de problématiques et beaucoup de frustrations dans beaucoup de vies, je pense. Si ça redevient un petit peu plus simple.
Moins de violence, ouais.
Ouais.
Est-ce que tu as déjà eu l'émotion ou quelque chose d'organique, en tout cas, de violent ou de colère ou...
Par rapport à la sexualité ?
Ou autre.
Je suis vraiment pas quelqu'un de violent.
Ça m'a l'air, ouais.
S'entends à mon ton de voix très bas. Non, je suis pas quelqu'un de violent. Même quand j'ai été dans des situations de violence, je me suis rendu compte qu'instinctivement, c'est pas que j'évite, mais j'ai pas l'impression que c'est une solution. Ça l'a rarement été, je pense. Je suis plutôt glacial quand j'ai un problème. Ça dépasse une limite et ensuite c'est fini. Je me protège ou je mets de la distance. Mais une violence, j'ai pu en ressentir dans la sexualité. Du coup, plutôt une violence saine, je dirais. Ou en tout cas, une violence qui venait de l'envie. Mais je me suis souvent rendu compte que, encore une fois, je sentais que c'est l'autre qui appelait ça. Et du coup, ça... On me demandait un peu d'être violent, quoi. Mais de manière tacite, c'est ça qui m'avait fait... Parce que je me suis senti violent, alors que c'était pas moi. Enfin, habituellement. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je me suis juste rendu compte que c'était avec telle ou telle personne et qu'il y avait probablement cet appel-là en face, mais qui n'était pas forcément dit. Mais je crois que c'est les seuls moments, ouais. J'ai pu avoir de la frustration, etc., mais pas de violence concrète.
Pas de violence, ouais, pas de colère.
Ni verbale ou... Pas trop, je crois. Je sais pas ce que ça dit de moi, mais je crois pas être
en colère.
Je suis pas extrêmement dans la colère, ouais.
Donc voilà, donc en fait, tu es l'incarnation de l'homme non-violent.
Je sais pas.
Qui n'a jamais ressenti de violence et de colère.
En fait, si. Mais c'est intéressant que tu dis ça. Je pense que j'ai pu être violent, mais sous des manières plus larvées. Dans l'exigence. Ce qui est une forme de violence.
Ouais.
Je crois que pendant longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, c'est pas moi qu'il faut demander ça, mais j'ai pu être exigeant, ouais. Dans des relations, dans des choses, dans un espèce de volonté d'absolu et de perfection, etc. Parce que je suis un peu perfectionniste. Et ça, ouais, ça, je pense que c'est des expressions de choses où j'ai pu être violent. Plus par la pression, en fait. La pression sur quelqu'un. Mais ça n'a jamais été conscient, je crois, jusqu'à récemment que j'ai pris conscience de ça, et c'est des sentiments où tu te réveilles et c'est pas très confortable. Dire non, en fait, là, j'ai foutu une grosse pression et c'est pas du tout ça.
Qu'est-ce que ça symbolise pour toi quand on aborde tous les sujets qui vont être liés autour de énergie féminine, énergie masculine? Est-ce que ça, y a des choses qui font sens pour toi ou est-ce que ça t'est complètement inconnu?
Alors, je crois qu'il y a des hommes avec des énergies très féminines et des femmes avec des énergies très masculines et inversement, des femmes très féminines, etc. Je crois pas que ça dépende des corps ou du genre dans lequel on est. En tout cas, c'est jamais ce que j'ai ressenti. Mais oui, en tout cas, il y a des énergies... Alors, c'est plus le problème du mot féminin-masculin, je crois, qui se pose. Je sais pas y répondre, je crois.
Ouais.
Mais il y a des énergies, alors pour parler de moi, qui me rappellent plus les énergies féminines dans lesquelles j'ai été éduqué. Du coup, je rattache ça au féminin, Mais il y a des hommes avec qui c'est exactement la même chose. Donc, c'est des niveaux de sensibilité, j'ai l'impression, ou des approches de sensibilité. Mais je crois pas que c'est relié au genre.
Ou des acceptations de sa sensibilité, peut-être.
Ouais, peut-être. Plus ça. Mais actuellement, bah, je crois, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, c'est peut-être rattaché à des genres, dans des globalités, etc. Mais je crois pas que ce soit quelque chose d'induit ou d'inné, ou de qui soit... Enfin, un mec n'a pas forcément à être moins sensible, une femme n'a pas forcément à être plus sensible. Mais actuellement, c'est un peu les éducations qui sont données, je pense.
Oui, c'est des portes ouvertes et des portes fermées, chacun qui ont été élevés
j'ai l'impression.
Et éduqués à exprimer ou à accepter, oui ça. Ou non, sa manière d'être et de ressentir.
C'est ça. Capacité à l'introspection aussi, peut-être.
Si ton corps pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait ?
C'est compliqué. J'essaie de ne pas trop réfléchir. Je crois qu'il dirait que ça va. Je sens plutôt bien. Assez apaisé, surtout depuis que j'ai arrêté de séparer corps-esprit et toutes ces choses-là. C'est un grand tout. Et puis on est dedans de toute façon, donc faut mieux l'accepter. Du coup non, plutôt, je crois, apaisé.
Si je te dis « mon corps n'est plus au centre, mais bel et bien vivant », comment ça résonne pour toi ?
C'est un rapport pour moi à la capacité dans le présent. De ne pas se voir avec un regard extérieur et un peu égotique, de dire « je suis ça, je suis ça, je suis ce que je voudrais être ou pas », etc. C'est juste accepter qu'on est embarqué dedans et c'est comme ça. Une ode à la simplicité, je crois. Et à l'incarner plutôt qu'à le voir comme quelque chose d'un regard extérieur.
Si t'avais un souhait à lancer dans l'univers, lié à nos corps, ce serait quoi ?
Que les corps soient moins sexualisés, pour qu'on ait des meilleures sexualités. Je crois que ce serait ça, ouais. Ça simplifierait beaucoup de choses. Je sais pas si c'est la même libération des corps que celle des années 70, mais je crois pas, d'ailleurs. Mais un retour à la simplicité de ce qu'est le corps. Et que c'est pas qu'un organe sexuel. Et je pense que ça remettrait les choses un peu à leur place.
Est-ce que tu as eu des retours depuis que Carnet Polenté existe ? Est-ce que tu as eu des témoignages de personnes, hommes, femmes, qui ont acheté, qui ont porté
Ce qu'on a remarqué, ce dont on est très fier, c'est que notre communauté, les gens qui nous suivent, c'est toujours des gens bien. Enfin, dès qu'on les rencontre, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui ne viennent pas et qui sont des cons, mais enfin, je ne crois pas. Mais en tout cas... Dès qu'on rencontre des gens, c'est des gens bien, avec qui c'est possible de parler, et ce qu'on nous dit beaucoup, on a eu quelques histoires assez miraculeuses, où des adolescents, c'était un mec, je crois, qui nous avait écrit, qui nous avait dit « bah merci, grâce à vous, j'ai fait mon coming out en famille ».
Ah, trop chouette.
Et ça, ça nous a trop émus, et on pensait jamais que ça pourrait créer quelque chose d'aussi puissant. Mais en tout cas, ce qui est constant, et ce qu'on nous dit beaucoup, c'est que ça crée des discussions. Ça étonne, ça intrigue, ça fait rire, ça ouvre. Et c'est toujours ce qu'on a voulu, on n'a pas de volonté militante, parce qu'on se sent pas légitime à faire ça. Par contre, la seule chose qu'on a toujours espéré, c'est que ça ouvre une discussion, au moins. Ou que ça crée un sourire, ou que ça titille quelque chose qui est un peu anormal. Et ça le fait pas mal, je crois. Parce que dès qu'on nous dit « Ah, j'ai acheté votre pièce », et on dit, je crois pas qu'on dit ça de beaucoup de marques de fringues, tout le monde nous dit, dès que je le porte, il y a des réactions. Il se passe quelque chose, ça fait réagir les gens, ça intrigue, on me pose des questions, on va s'attarder dessus. Et ça, c'est chouette, ouais. C'est une belle récompense.
Un pari gagné, quoi.
Ouais, un pari qu'on n'a même pas, on n'essayait même pas, mais ça a créé ça, en tout cas. Ouais. C'est un peu mystérieux, je sais pas trop pourquoi, mais ça a fait ça, ouais.
Et la suite, c'est quoi, maintenant ?
On a pris conscience que même si c'est pas ce qu'on voulait faire à la base, ça porte un message, ce projet. Donc on essaie de se cultiver un peu sur ces sujets-là, dont on provient pas et qui sont, je pense, il y a une certaine responsabilité à parler de ces choses-là quand même. Surtout quand on est suivi par des plus jeunes générations, etc. et qu'on est porteur d'un message. Donc on essaie de comprendre ce qu'on pense, déjà, tous les quatre maintenant. de savoir ce qu'on a envie de dire, quel message on a envie de porter. Instinctivement, on va vers quelque chose de, je dirais pas activiste, mais un petit peu plus porteur de message quand même, de défendre certaines positions. Mais en tout cas, on se rend aussi compte que la mode a été une première étape et qu'on peut exprimer en fait les idées de ce projet à travers plein d'autres choses. Donc on va voir, là on a collaboré avec la réalisatrice Erika Lust. Il va y avoir un projet qui va sortir bientôt, donc on est très contents et on sent que en fait, dès que ça parle des sexualités, on est un petit peu plus légitime à dire « Ah, là on pourrait faire un truc ensemble ». Donc c'est un... on se voyait que à travers la mode depuis le début et maintenant on se voit plus... comme non, notre arc et le prisme de ce projet, c'est le rapport à la sexualité, à l'éducation sexuelle, à la sensibilisation à la sexualité, et tout ce qui en parle, on peut être légitime pour mettre le nom Carnet Bolente avec ça, ou pour faire un truc ensemble. Donc ouais, ça c'est une grande porte ouverte pour nous, on est assez excités, on sait pas exactement où ça va aller, mais on a pas mal d'idées, pas mal de projets où... ouais, on va ouvrir un peu le projet, je pense. On s'est dit qu'on aimerait ouvrir un Love Hotel à Tokyo, pour la communauté LGBT, parce que là-bas, quand t'es de la communauté LGBT... En fait, c'est moi, je vais parler d'une histoire privée, mais on a un ami à Tokyo qui a rencontré quelqu'un sur Tinder, donc deux mecs ensemble, et ce soir-là, ils voulaient rentrer ensemble, et ils n'ont pas trouvé d'hôtel, parce qu'on les a refusés. Et on s'est dit, ah, c'est pour nous. ça serait, ouais, faire une safe place un peu à Tokyo, ce serait très drôle, parce qu'on a un de nos associés de Tokyo, donc on a pas mal de rapports avec le Japon. Produire des choses, ce serait chouette aussi, permettre à des gens qui écrivent, qui font des films, qui font des podcasts, sur ces sujets-là, d'apporter ce qu'on peut là-dedans, ce serait chouette. Et tout le milieu associatif qui nous intéresse aussi énormément. On travaille beaucoup avec AIDS depuis quelques temps, et avec la Grande Braderie de la Mode, qui est super. C'est des projets qu'il faut aller voir, je pense. Voilà, on verra. En vrac.
Vous êtes en train de devenir des... En tout cas, vous avez envie d'être des porte-parole et d'aller au-delà de...
Je crois qu'on s'y attendait pas, mais ouais. on s'est réalisé une forme de conscience dans ce projet, ouais. Avec ce qu'on nous renvoyait aussi, c'est vraiment grâce aux gens qui nous ont suivis. On a reçu beaucoup, beaucoup d'amour depuis le début de ce projet. C'est chouette. On se sent chanceux.
Hâte de voir la suite, alors. Merci, Théodore.
Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Théodore pour ce partage. Je vous invite à découvrir la marque Carnet Bolente sur le site carnetbolente.com. Une belle manière de libérer la parole autour de la sexualité. Vous venez d'écouter le podcast Shapes, produit par les Ondes Mécaniques. Si les mots de Théodore ont fait écho en vous, n'hésitez pas à les faire circuler et à les propager sur tous vos réseaux. Cet épisode s'est construit à plusieurs mains. Je me suis chargée de l'écriture, de la prise de son et du montage. Romain Prouveur a fait le mixage. Et enfin, sur cette nouvelle saison, Xeul nous fait danser à chaque épisode avec une musique composée spécialement pour nous. Retrouvez toutes les informations sur l'Instagram Shapes Podcast. Merci pour votre écoute, vos partages, vos cœurs et votre fidélité.
Les ondes mécaniques.
Les ondes mécaniques.